Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au téléphone pour la quatrième fois Frédéric Burguière, chanteur et multi-instrumentiste de l'artiste de la semaine sur votre antenne, le groupe Les Ogs de Barbac. Fredo, bonjour.
Bonjour.
Alors certains médias comme Tropic FM vous soutiennent depuis très longtemps, ce ne sont pas les plus importants en termes de notoriété et de taux d'écoute, et malgré cela, ça fait quand même des années que vous remplissez les salles où vous produisez, et vous êtes un des rares groupes autoproduits à vendre encore beaucoup d'albums malgré la crise du disque. Comment expliques-tu encore aujourd'hui ce succès jamais démenti avec le temps? Vous vous posez parfois la question?
Ah ben oui, très souvent même. En fait... Nous, je pense que ce qu'on a réussi à faire, et c'est vraiment ce qu'on voulait dès le départ, c'est de faire tranquillement notre chemin, tel qu'on avait envie de le faire. Et je pense que les gens se sont reconnus un petit peu au fur et à mesure des concerts. Ils ont reconnu que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le spectacle ou la scénographie, parce que il peut y avoir un spectacle qui plaît plus à des gens ou à d'autres. Je pense qu'ils ont quand même vu que on travaillait, que voilà, qu'on se foutait pas de la gueule du monde. Nos places de concert ont toujours été quasiment dans les moins chères dans chaque salle où on joue. On essaye de faire tout vraiment au plus juste possible, quoi.
Mmh. Vous aimeriez, vous, comme l'a été Trio il y a quelques années, être diffusé par les soi-disant grands médias commerciaux comme Énergie, être connu du très grand public, même s'il ne ressemble pas au vôtre. Vous le prendriez comment, ça, d'ailleurs?
En fait, on ne s'est pas trop posé la question parce que nous, on se considère vraiment comme artisans de la musique. On s'est posé une bonne question il y a plusieurs années et je crois qu'on a bien fait de se la poser dès le début de notre carrière. C'est de savoir si on voulait justement vivre en vendant le plus vite possible des disques et en passant dans les radios, ou si on voulait vivre de notre musique en faisant notre chemin comme des artisans. Après, c'est vrai qu'on a eu une petite crise il y a 2-3 ans. On avait rempli le Zénith à Paris, on avait distribué un DVD gratuit sur toute une tournée, et on a eu absolument aucun retour des grands médias, alors qu'on les avait plutôt sollicités pour leur expliquer que nous, on faisait le commerce différemment. Mmh. Et là, c'est vrai qu'on était un peu fâchés, on se disait c'est bizarre quand même, un groupe qui remplit le Zénith, qui fait toute une tournée en offrant un DVD, et ils s'en foutent complètement, personne, enfin les grands médias en tout cas n'ont absolument pas relayé cette info. Et puis après, ça nous est passé, on s'est dit que de toute façon, c'était pas très grave, depuis le temps que les gens nous suivaient, et puis que nous on suivait les gens, ça allait quoi.
Ouais, vous avez pas besoin d'eux pour vivre de toute façon.
Non, pas du tout.
Ouais. Alors je parlais de crise du disque, alors comme disait Coluche, en 1986, il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c'est une crise, depuis que je suis petit, c'est comme ça. Vous qui avez, ouais. Toi aussi, depuis que t'es petit d'ailleurs. Ouais. vous qui avez monté votre propre label Irfan, que pensez-vous du mot crise, qu'il soit du disque ou économique? Il traduit juste le plus grand écart entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Le mot crise ne veut plus rien dire finalement.
Bah, c'est-à-dire que nous, par exemple, quand on a parlé un petit peu de la crise du disque, effectivement, le disque physique ne se vend quasiment plus. Nous, ça a mis 2 ou 3 ans de plus tard par rapport aux grandes maisons de disques pour qu'on sente un petit peu la baisse des ventes. Mais c'est-à-dire que effectivement, les moins de 25 ans n'achètent plus les disques, donc ils ont d'autres moyens, ils les téléchargent, ils ont des plateformes, etc. Après, moi, quand j'ai vu toutes les maisons de disques commencer un petit peu à s'inquiéter, je parle vraiment des grandes maisons de disques commencer un petit peu à s'inquiéter et à revenir à des pochettes un peu plus humaines, à l'élaboration de CD physiques un petit peu plus agréables, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que c'est vraiment, à chaque fois, c'est le côté financier qui fait bouger les gens, on a l'impression, parce que nous, on était toujours, on a toujours été très critiques sur le support CD, tel qu'il était fait, c'est-à-dire une boîte en plastique un peu pourrie qui se casse dès qu'on la fait tomber, une photo et puis l'étiquette des chansons, et puis basta, et ça coûtait 20 ou 25 euros. On trouvait que c'était un petit peu abusé. Alors que nous, à côté de ça, on avait nos disques à 12, 13, 14 ou 15 euros, avec un livret, toutes les paroles, des peintures, en carton, avec une esthétique. Et d'un seul coup, dès qu'il y a eu la crise du disque, toutes les maisons de disques ont fait les mêmes pochettes que nous. Alors, nous, ça nous a fait plutôt rire. Après, voilà, si c'est vrai que les artistes qui vendent des milliers et des milliers d'albums, eux, pour l'instant, je sais même pas si eux, ils arrivent à remplir leurs salles, hein, mais nous, on a une économie qui est fragile, mais qui pour l'instant tient la route.
Bien. Alors nos deux derniers entretiens radiophoniques ont lieu en 2007, le jeudi 26 avril, 4 jours après le premier tour des élections présidentielles, et le jeudi 14 juin, dans quelques semaines après votre passage remarquable et remarqué au Centre culturel Aragon en Yonnax, et ces échanges de courriers que vous avez eu l'amabilité de faire circuler sur Internet et qui vous a valu à vous et à Jacques Gobet, l'ancien maire de la Cité des Plastiques, et qui n'était pas présent à votre concert, une célébrité pour le moins inattendue.
Oui, hein. C'est notre meilleur attaché de presse de toute notre vie.
Tu m'étonnes. Il faut dire que vous y avez été un petit peu fort ce samedi 5 mai 2007, je cite ces propos, hein, de Jacques Gobet. Votre spectacle a servi de prétexte à une action de propagande politique dirigée contre l'un des candidats à l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, et en faveur de son adversaire, Ségolène Royal. Votre réponse fut une des plus cinglantes, et la fin fut comme on l'aime, hein, je cite, vous devriez commencer par rebaptiser votre centre culturel Aragon pour lui substituer celui de Johnny Hallyday ou de Doc Gynéco. Monsieur, nous ne vous saluons pas, même le monde à parler de vous, j'imagine que vos ventes d'albums ont explosé.
Non, pas du tout. C'est surtout le nom qui a circulé parce que je sais plus. Il y avait un copain à moi qui est très calé en informatique et en réseaux sociaux, et il nous a dit qu'a priori la lettre avait circulé plus d'un million de fois sur Internet, quoi. Donc pour nous, c'était une sacrée. Mais en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que sur notre lettre, on lui répond pour lui expliquer qu'en fait, juridiquement, il a tort sur tous les points. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est que le maire d'une ville puisse déjà se permettre un ton autoritaire avec des artistes comme ça. Enfin bon, les artistes, ça veut rien dire, mais je veux dire, il nous a fait une lettre vraiment avec un ton autoritaire, en sous-entendant des lois qu'on n'aurait pas respectées. Et nous, on avait fait lire la lettre par un avocat, et en fait, il avait absolument tort sur tous les points, les quatre points dont il nous faisait part, c'était faux. Donc voilà, donc on s'est permis de répondre et de faire circuler la lettre parce que bon, ça méritait quand même une petite attention.
Mmh. Ah, vous avez eu des pressions, vous, par la suite, lors de vos autres concerts, où vous avez pu faire votre travail?
Absolument aucune pression. Non, ça, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont venus voir un petit peu ce qu'était la fameuse propagande pour certains candidats. Et en fait, moi, j'étais à ce moment-là en train de faire ce qu'on appelle du VJ. Ça veut dire qu'au lieu de faire DJ avec la musique, je mixais des images. Et toutes les semaines, je changeais ces images en fonction de l'actualité. Donc la semaine d'après, ça pouvait être sur un ouragan. La semaine d'avant, ça pouvait être sur, une expérience scientifique. Et cette semaine-là, y avait les élections, donc on parlait de ça. Et on n'était absolument pas, il n'y avait pas voté ceci ou voté cela. C'était juste, on mettait des petites phrases un peu assassines de chaque candidat. Donc la phrase de Ségolène Royal, c'était « il faut mettre les parents devant leurs responsabilités », ce qui n'était pas franchement une phrase en sa faveur. Et la phrase de Nicolas Sarkozy, c'était « on va nettoyer tout ça au Karcher », mais il n'y avait pas du tout de propagande.
Ouais. Notre ami Cyrano, avec qui vous avez chanté « Bleu », a été victime lui aussi l'année dernière de pression politique, en l'occurrence donc celle de la mairie UMP de Montauban, qui a mis la pression sur les organisateurs. Ces derniers ont carrément annulé sa prestation, un spectacle jeune public en plus. On croyait que la censure avait disparu avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981. On est revenu carrément en arrière là.
C'est vrai que en fait je vais pas faire une généralité, mais quand on parlait tout à l'heure un petit peu des... Il n'y a pas que les grands médias, il y a aussi, par exemple, les gros festivals ou plein de lieux comme ça, où on se rend compte qu'en fait, il y a plutôt des espèces d'arrangements. Alors, c'est pas le grand complot, hein, je dénonce pas un grand complot, mais c'est vrai que les arrangements entre les maisons de disques qui disent, moi j'ai cet artiste-là qui est très connu, qui fait du monde, je te le propose moins cher, puis en échange, tu me prends un autre groupe. Nous, on n'a pas le droit à ça, puisque nous, on est des indépendants, et si tu prends les ogres en concert, t'as les ogres en concert et personne d'autre. Donc on a mis énormément longtemps avant de pouvoir jouer sur un gros festival c'est pas vraiment de la censure affirmée ou franche, c'est de la... Je pense que sur Montauban, enfin j'ai eu Cyrano, on en a parlé, et c'est vrai que c'est même pas franc, c'est même pas non, passe pas parce que on n'est pas d'accord, c'est non, là tu peux pas jouer là, puis non, puis là tu peux pas passer dans telle radio, puis non, finalement on va pas parler de toi, et puis au revoir, quoi.
Ouais. Bien. Alors, depuis notre dernier entretien téléphonique qui s'est écoulé 4 ans et demi, alors comme à votre habitude, vous n'avez pas chômé, des concerts, hein, à votre habitude, des concerts, un double DVD en public et un deuxième album jeune public Pitocha au pays des mille collines, et l'écriture, l'enregistrement et la sortie le 15 mars 2011 de votre nouvel album studio « Comment je suis devenu voyageur ». Vous avez quand même fait une pause côté scène entre mai 2010 et mars 2011. C'est la première fois que vous preniez autant de temps. Vous en aviez besoin pour faire le point sur la suite des aventures des Hommes de Barbac.
Eh ben non, en fait, nous à chaque fois qu'on fait une pause, c'est quand il y a des bébés qui arrivent. Voilà, le plus souvent c'est ça. Et c'est très rare qu'on fasse 6 mois sans concert. Effectivement, il y avait eu une pause, mais non, en fait, c'est par rapport aux tournées, quoi. Mmh. Mais nous, ouais, on est plutôt, enfin, on se revendique groupe de scène, donc c'est entre 80 et 100 concerts par an depuis 15 ans. Donc même quand il y a une pause, les gens s'en aperçoivent pas trop, quoi, en fait. Il y a que nous qui nous reposons un tout petit peu. Et encore, quand on dit pause, pendant ce temps-là, on prépare le Pitocha d'après. Pendant ce temps-là, on aménage, enfin bon, et puis évidemment, on a tous des enfants, on s'occupe de notre famille, donc voilà, c'est des pauses pour nous, quoi.
Voilà. Alors, votre nouvel album donc, s'appelle donc, je disais, « Comment je suis devenu voyageur ». C'est un titre presque autobiographique, avec l'histoire de vos ancêtres, puis la vôtre, voyageur, n'est pas seulement un métier, c'est une raison de vivre et de survivre.
Bah nous, en fait, on se revendique voyageurs. Je pense qu'on voyage encore plus que ceux qu'on appelle justement les voyageurs, qui sont souvent sédentaires. Non, mais en fait, c'est assez rigolo parce qu'on passe 6 mois sur la route à aller dans chaque ville, à vraiment rencontrer des gens. Et puis c'est ça qui nous fait là, vraiment le... On le dit souvent, nous, les 2 heures sur scène, finalement, c'est anecdotique. Et vraiment, ce qui nous plaît et ce qui nous passionne, c'est toutes les rencontres, les voyages... Les cultures, chaque ville est différente. Enfin, c'est tout ce qui nous plaît dans le métier. C'est vraiment tout ce sens du voyage. Et alors en plus, comme nous, on aime, l'international et vraiment le métissage de tout ce monde. On se sent plus humain et terrien que français et Sergi Pontin. Donc voilà, c'est comment je suis devenu voyageur. Pour nous, c'était une histoire de d'ouverture aussi, quoi.
Mmh. Avec ce nouvel album, donc on voyage sans le savoir à travers tous les continents, même si c'est souvent la musique qui nous indique dans quel endroit on est. Vous avez inventé sans le savoir le carnet de route musical.
Ah ben voilà, merci beaucoup. Voilà. C'est un beau compliment.
Bon. Vous ajoutez sans cesse de nouveaux instruments que vous avez ramenés de vos différents voyages, que ce soit en France ou à l'étranger. Ils ont forcément une influence sur la couleur musicale des morceaux que vous composez. Ils donnent le la, si je puis m'exprimer ainsi.
Bah souvent, ouais. En fait, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'à chaque voyage, on ramenait un instrument et on pouvait pas s'empêcher de le mettre sur scène et d'apprendre à en jouer même 3 notes. Donc, moi, c'est vrai que pendant un an, là, je faisais 3 notes sur un morinour, c'est le violon chinois de Mongolie, enfin le violon à tête de cheval, quoi. Et on a ramené le kamanché, un violon arménien, on a ramené des percussions du Mali, on a ramené, enfin, c'est... À chaque fois qu'on va dans un pays, effectivement, on aime, se s'entourer d'autres instruments encore, quoi.
Alors, par rapport à l'avant-dernier album, Du simple au néant, il y a moins ce côté sombre, moins plombant, moins dénonciateur, peut-être. Vous réveillez les consciences d'une autre façon, je dirais, peut-être plus poétique, plus ironique. Vous aviez aussi envie de faire voyager les idées.
Ben, c'est-à-dire que sur Du simple au néant, en fait, c'est vrai qu'on était dans une période où on avait fait donc une tournée chapiteau, aux urnes, etc., pour un petit peu pour l'appel aussi un petit peu à la réflexion de chacun dans la société. On était aussi dans cette dimension où on trouvait que les Français se refermaient les uns sur les autres, et le vieux discours de la rengaine où on dit que c'est l'autre qui est coupable faisait succès auprès d'un certain candidat, justement. Donc nous, on était un peu dégoûtés, c'était un petit peu notre album colère. Comment je suis devenu voyageur, je pense qu'il est beaucoup plus serein, on est moins je sais pas comment expliquer ça, quoi, on est moins à fleur de peau, on est plus posé. Justement, on a fait cette tournée où on était un petit peu plus révolté, puis ça nous a appris beaucoup de choses. Donc comment je suis devenu voyageur, c'est peut-être le côté un peu parent, parce qu'on a tous aussi tous des enfants, et puis on veut leur expliquer les choses peut-être d'une manière un peu moins sombre que du simple néant, quoi.
Mmh. Alors, la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, il n'y avait toujours pas de batteur dans la famille Burger. Or, vous avez fait travailler un nouveau venu dans le groupe et qui n'avait pas encore 16 ans l'âge légal pour travailler, je te rappelle.
Ouais.
C'est Léo, le petit dernier de la famille Burger, un frère.
Oui, le petit frère.
Le petit frère. Donc, vous aviez besoin à ce point de quelqu'un à la batterie que vous n'aviez pas hésité à transgresser les lois de la République. Hein, vous n'aviez décidément aucune morale.
On fait travailler même les mineurs.
Bah oui.
C'est honteux. Mais nous, sur nos premiers concerts, les jumelles avaient déjà des mots des parents. Parce que quand on a joué au Sentier d'Air, elles avaient 16 ans, donc, enfin, ou 17 ans, ouais. Donc, c'est pas encore le droit, quoi.
Mais l'âge légal pour travailler. Alors qu'à moins de 16 ans, on n'a pas le droit, en principe.
Ah oui, alors j'avais 15 ans, alors, parce qu'on avait le mot de nos parents.
Ah bah d'accord.
Comme quoi, elles étaient autorisées de jouer au Sentier d'Air, effectivement, ouais.
Bien. Et pour le côté batterie, alors?
Et ben donc Léo qui travaille le clavier, la guitare, la batterie, qui fait de la musique avec tous ses potes et qui veut arrêter l'école pour nous rejoindre, on lui a dit passe ton bac d'abord, voilà.
Vous avez sorti, je le disais, Pitocha au pays des mille collines, un album destiné au jeune public et qui fait suite à la pittoresque histoire de Pitocha. Lorsqu'on connaît la différence de la très grande majorité des médias pour les artistes et albums jeune public et l'inculture presque générale des parents préférant coller leurs enfants devant la Starac que de leur faire découvrir ce qui est fait pour eux, il faut sacrément avoir du courage et de l'envie que de se lancer dans de tels projets. On peut parfois se demander qu'ont fait les enfants pour mériter une telle pauvreté artistique. Ils n'ont pas le droit de profiter. Je dirais parfois, ils n'ont pas le droit de profiter de leur jeunesse. On n'aime pas les artistes jeunes publics, alors.
Ouais, je sais pas. C'est vrai que nous, quand on a fait le premier Pitocha, on nous a dit, oh là là, vous courez à la catastrophe, c'est une peine perdue. Mmh. Ça se vend pas, c'est fini, c'est foutu, il n'y a rien. Vraiment, on nous a déconseillé, mais complètement, dès le premier Pitocha. Hein, et il n'y avait pas encore eu d'autres initiatives, comme d'autres artistes.
Ouais.
On a sorti le Pitocha, je sais pas. Je pense que les gens ils ont aimé le côté intergénérationnel parce que c'est vrai que on dit c'est un disque pour les enfants Pitocha, mais il y a plein de parents qui nous disent qu'ils l'écoutent aussi. Le côté mélange des artistes, c'est vrai comme il y avait Pierre Perret, les trios, la Ruquette, les Ogues, Debout sur le Zinc. Je pense que les gens étaient assez contents de voir que voilà quoi, qu'on pouvait faire des choses ensemble et que c'était quand même une grande famille. Et alors le deuxième, avec toutes ces langues différentes, on nous a dit, mais là c'est même pas la peine, c'est-à-dire que les enfants déjà, qu'il leur faut des chansonnettes en français pour qu'ils comprennent ce dont on parle, là vous faites carrément des chansons dans des langues étrangères, c'est encore pire, et c'est pareil, on a un retour positif, et puis même nous on l'aime bien, enfin je veux dire, voilà, on est fiers de nous, parce que franchement, je trouve que c'est, voilà, ça, on l'a sorti en version livre avec le disque, c'est un bel objet, quoi, je trouve que c'est... Voilà, c'est bien pour les enfants. Mes enfants, ils l'aiment bien déjà, puis moi aussi, je l'aime bien.
Ouais. Alors, si je dis, on peut parfois se demander ce qu'ont fait les enfants pour mériter une telle pauvreté artistique de la part des grands médias qui ne s'intéressent pas à eux, alors.
Je sais, peut-être qu'ils ne rapportent pas assez d'argent, je ne sais pas.
Ah, d'accord.
C'est peut-être un truc comme ça.
Oui, mais s'ils n'essayent pas, ça risque pas de marcher.
Ouais, non, mais c'est sûr, non, mais... ouais.
Bon, c'est dommage parce qu'il y a une telle variété dans la chanson jeune public et pas, il y a pas que vous, hein.
Et, ah oui, non, Aldebert, il a sorti un truc aussi.
Et puis même des vrais artistes, des gens qui font uniquement que ça,
ouais.
Ils mériteraient quand même plus que, que les radios comme nous, quoi. Voilà.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Bon, tant pis. Récemment, vous étiez en concert lors d'une réunion publique en hommage aux victimes algériennes du 17 octobre de 1961.
Oui.
Vous qui êtes des descendants du génocide arménien par les Turcs, c'est presque un devoir, celui de mémoire en l'occurrence, d'être présent dans ce genre de manifestation.
Ben, c'est vrai que c'est quand on découvre l'histoire par soi-même, on est assez surpris, assez étonné de voir qu'il y a des choses dont on parle en priorité, puis d'autres qu'on cache un petit peu, ou alors qu'on met du temps, ça met énormément de temps, quoi. Là, parler de ce massacre qu'il y a eu en plein Paris il n'y a pas si longtemps que ça, alors que à l'école, je pense que je sais même pas si aujourd'hui ils ont rajouté une page ou quatre lignes là-dessus, mais moi on m'en avait jamais parlé jusqu'à il y a 10 ans, quoi. Donc je pense que moi, ce que je trouve important, c'est de, à un moment donné, de pouvoir se rassembler avec des gens comme ça qui ont chacun un combat, parce que moi c'est vrai que cette histoire-là, je vais pas dire que je m'y intéresse énormément avec le peu de pouvoir que j'ai et ce que je peux faire, c'est-à-dire venir chanter sur un concert, mais je vais pas faire plus. Par contre, moi, avec mon histoire, je me sens un peu rattaché à la reconnaissance du génocide arménien, donc je vais faire un petit peu plus là-dessus. Il y a des amis qui vont avoir une cause, je sais pas, sur Israël-Palestine. Ils vont m'en parler, je vais peut-être être sensible sur... Enfin, voilà, ce que je trouve important, c'est à un moment donné de pouvoir se parler comme ça avec des gens qui ont chacun leur combat, et puis se rassembler et se dire, bah, moi, c'est vrai que ce combat-là, je le soutiens, donc voilà, à ma petite échelle, pour venir chanter pour vous, parce que je trouve que voilà, je trouve qu'il y a des choses injustes, et que si on peut ensemble se rassembler et les changer, bah, tant mieux.
À votre tournée s'achève fin 2011, et vous ne remonterez pas sur scène avant septembre 2012.
Ouais.
Alors, vous avez donc raté les élections présidentielles. Alors, ouais. C'est pour ne pas avoir les mêmes genres de soucis qu'en 2007 que vous avez décidé de faire une pause?
Non, c'est parce que je fais un projet personnel. Je prends un avion, je pars avec ma femme et mes enfants, et en fait, on va faire un petit peu, voilà, on voyager, découvrir des pays, et puis, voilà, peut-être prendre encore plein d'inspiration pour des prochaines chansons.
Et plein d'objets, et plein d'instruments.
Ouais, j'espère.
Eh ben, merci Fredo d'avoir accepté notre invitation. Fredo, chanteur et multi-instrumentiste du groupe Les Orques de Barbac. Rappelons que votre superbe nouvel album studio Comment je suis devenu voyageur est sorti depuis le 15 mars 2011 sur votre label Irfan. Et ben, moi, d'abord, je dirais qu'il faut se procurer d'urgence, sans oublier tous les autres, ainsi que les albums et DVD en public et les aventures de Pitocha pour le jeune public et pour les grands aussi.
Ben merci beaucoup pour l'invitation.
Mais de rien. On vous retrouve sur internet via votre site. Oui, il est toujours aussi formidable votre site www.lesog.com, hein, parce que il y a un véritable effort qui est fait, et c'est rarement le cas chez les artistes, même les plus connus, d'avoir un vrai site.
Ah ben là, c'est une amie, Céline, là, qui nous gère le site depuis plus de 10 ans, et vraiment elle le fait super bien, quoi.
Ouais. Et le plus important pour nous, on retrouve la famille Burger en concert à l'Arcadium Annecy le samedi 12 novembre 2011. Hein. Voilà.
Très bien.
Eh ben, Fredo,
à bientôt alors.
Eh ben, bientôt. Bonne chance, bonne fin de concert d'abord. Bon voyage alors.
Ouais. Hein, pour les... Merci beaucoup.
Bonnes élections présidentielles.
Ouais.
Voilà. Et puis, à très bientôt sur Tropic FM.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.